Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Crise sociopolitique au Mali, des morts, des blessés, des dégâts matériels importants sont enregistrés. Comment calmer les tensions aujourd'hui? C'est le thème du Grand Dialogue et nos invités sont Dr Brema Eli Diko, sociologue, professeur à l'Université de Bamako, Diakari Poudjougo, docteur en sciences juridiques et politiques, professeur à l'Université de Bamako et professeur Mamoutou Soumaré, économiste chercheur. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, chers invités, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce Grand Dialogue. Aujourd'hui, compte tenu du contexte du pays, le débat se fera avec les invités au téléphone.
Le Grand Dialogue.
Le président de la République a annoncé dans la nuit du samedi 11 juillet 2020, face à la crise à laquelle le pays fait face, la dissolution de la Cour constitutionnelle, la formation d'un gouvernement d'ouverture et l'application des recommandations de la CEDEAO pour faire face à cette situation. Alors aujourd'hui, est-ce que le M5, comment ces mesures sont-elles appréciées par le mouvement du 5 juin? Nous allons écouter Tayourou Ba du M5 qui nous donne le point de vue du M5 sur la question.
Il y a presque 23 morts. Selon nos chiffres réels, c'est ça les chiffres réels, et des centaines de personnes sont blessées. Presque tous les hôpitaux, que ce soit les hôpitaux publics ou les hôpitaux privés, sont bondés aujourd'hui des blessés. Et nos dirigeants sont arrêtés, on ne sait même pas où ils sont, parce que selon le propre propos du président de la Fédération des Maliens des droits de l'homme, ils n'ont pas pu recenser le nombre exact des prisonniers détenus au camp. Et ça, c'est une violation extrêmement grave des droits de l'homme. Ce que nous signalons, la mobilisation continue. Toutes les 6 communes de Bamako seront prises aujourd'hui par les manifestants et la désobéissance civile continue selon les 10 commandements que nous avons bien édifiés à toute la population malienne de Kaye à Kidal. S'il y a violence, c'est la violence policière aujourd'hui qui est là. Que ce soit Mamoud Diko ou n'importe quel dirigeant du M5-RSP, Rassemblement des Forces Patriotiques, aucun des responsables n'a appelé, et je lance le défi à qui que ce soit, à appeler les Maliens à la violence. À partir du moment où le régime refuse à ce qu'une organisation de défense des droits de l'homme ait accès aux prisonniers politiques, donc on ne peut pas vous dire exactement quel est le nombre des prisonniers politiques aujourd'hui détenus arbitrairement par le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et pire que ça, on ne sait même pas dans quel état ils sont.
Aujourd'hui, vous avez dit que les manifestations vont se poursuivre. Il y a le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et la prise en compte des recommandations de la CEDEAO. Est-ce que ces propositions suffisent pour le M5 pour calmer la situation?
Le M5 n'a pas bougé d'un iota sur sa position qui est le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, pur et simple. Et nous rejetons toute forme de mesure ou toute forme d'initiative venant d'Ibrahim Boubacar Keïta parce que nous le considérons plus comme le président de la République. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Le mémorandum est déjà caduque. Nous avons lancé la désobéissance civile depuis le 10 juillet. Quelqu'un qui n'est même pas considéré comme président de la République. Donc, dites-moi, monsieur, en quoi nous allons prendre ces déclarations au sérieux? Donc, qu'il dissout la Cour constitutionnelle, qu'il dissout l'Assemblée nationale ou qu'il met son gouvernement d'union nationale, cela n'engage que lui et ses serviteurs. Aujourd'hui, le peuple malien ne considère plus Ibrahim Boubacar Keïta comme le président de la République. Il est illégal et illégitime. La mobilisation continue aujourd'hui et les jours suivants.
Diakari Poudjougo, vous venez d'entendre Tayourou Ba du M5, mouvement du 5 juin, Rassemblement des Forces Patriotiques. Alors dans ce contexte, est-ce qu'il y a une solution à cette crise sociopolitique à laquelle le Mali fait face?
Merci de votre invitation. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de ceux que nous avons perdus. Je condamne toutes les violences. En même temps, je reconnais les revendications légitimes, je dis bien légitimes, du mouvement M5. Je pense qu'il y a toujours une solution, mais pas de solution juridique, à mon avis. Aujourd'hui, il n'y a aucune solution juridique possible à cette crise sociopolitique qui frappe notre pays.
D'accord. Docteur Brema Ilidiko, partagez-vous l'avis de Docteur Poudjougo sur la question?
Bien, merci. Moi, je voudrais commencer par présenter mes condoléances les plus affectées aux familles des victimes et ensuite présenter, faire mes souhaits pour le contre-rétablissement des blessés. Il y a toujours une solution, effectivement. Pour moi, aujourd'hui, il faut un apport politique de gouvernance. Ce que nous avions dit, en fait, en son temps, il faudrait, c'est un problème politique, il faut un règlement politique. Il faut sortir de ce juridisme, parce que l'article, la Constitution a dit ceci, la Constitution a dit cela. Malgré l'existence de la Constitution, il y a eu énormément de problèmes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase où une sorte de rouleau compresseur est en marche. Moi, quand je suis sorti, j'ai essayé de faire un peu le tour de la ville hier. Et ce que j'ai vu, c'est des groupuscules de jeunes qui prennent des initiatives. Donc, ces jeunes-là ne sont même plus véritablement sous le contrôle du M5 aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr que si le M5 dit aujourd'hui arrêter la violence, ou bien arrêter, mettre fin à la désobéissance civile, je ne suis pas sûr que beaucoup de jeunes obéissent en fait à cette recommandation. Donc, il est important de prendre des décisions fortes. Il y a eu des propositions dans le cadre de la mission de la CEDEAO depuis le 19. On a, je pense, traîné un peu le pied. La dissolution de la Cour constitutionnelle, ou ce qu'on peut appeler l'abrogation du degré de nomination de certains conseillers, donc des conseillers restants, c'est quelque chose qui aurait dû arriver avant. Mais bon, c'est arrivé tard. Et tout le reste là qu'on est en train de faire, c'est des décisions qu'on prend un peu en fait en retard. Donc, de mon point de vue, il faut aller assez rapidement vers la mise en application concrète de cette recommandation de la CEDEAO, ou simplement aller plus loin. Et aller plus loin, la Constitution, si on doit s'en tenir à la Constitution, nous donne une autre porte de sortie. Donc pour moi, on est en train de tergiverser. Il faut impérativement libérer les détenus. Et ce n'est qu'en faisant cela, et ensuite arrêter l'utilisation des armes létales. La FORSAT est une force qui doit lutter contre les terroristes. Et les manifestants, ils ne sont pas des terroristes. Certes, les violences sont à condamner, on les condamne. Mais ceci dit, on ne peut pas d'un côté accepter que la force tire sur des citoyens et ensuite prendre des gens, les maintenir au camp hein, ou dans d'autres endroits et espérer qu'il y ait un dialogue. Donc, si on veut une solution, il est impératif aujourd'hui de libérer les détenus, d'arrêter l'utilisation de la violence, et notamment des armes létales contre les citoyens. En faisant ça, on crée les conditions d'un dialogue. Mmh.
Professeur Mamoutou Soumaré, quand vous écoutez le discours du président de la République et cette position du M5 qui est de maintenir la désobéissance civile, pensez-vous qu'on tend vers la résolution de cette crise sociopolitique?
Merci pour votre invitation. Et donc, je voudrais également, comme les autres débattants, présenter mes condoléances aux personnes qui ont été, aux familles des personnes qui ont été tuées. Maintenant, le président de la République, il attend d'être au bout coincé pour prendre des décisions qui avaient été demandées il y a bien longtemps. Dissoudre ou bien constater la dissolution de fait de la Cour constitutionnelle, ça avait été demandé il y a bien longtemps, la dissolution de cette Cour constitutionnelle. Et ça ne résout rien. Parce que les gens ne sont pas d'accord avec l'Assemblée nationale. Et si vous prenez la Constitution, il y a 3 conseillers de la Cour constitutionnelle qui vont être nommés par le président de l'Assemblée nationale. En fait, on est en train de se mordre la queue. Il dissout l'Assemblée, la Cour constitutionnelle, sachant que lui, il va nommer 3 représentants à la nouvelle Cour constitutionnelle. Et la personne la plus critiquée du Mali après lui, qui est le président de l'Assemblée nationale, va en nommer encore 3. Ça fait 6/9. Et les 3 autres seront nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc ça ne résout rien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le M5 avait proposé diverses choses. À un moment, ils avaient même été d'accord pour maintenir le président en place, en proposant un nouveau gouvernement. Le président a refusé. Donc maintenant, la situation, il faut comme disait l'un des intervenants, il faut le dialogue. Parce qu'on ne peut pas, des deux côtés, on est tendu, on ne peut pas arriver à une solution satisfaisante pour tout le monde s'il n'y a pas un dialogue et penser bien sûr au bien du pays avant tout.
D'accord. Alors, Diakari Poudjougou, dans ce contexte, le professeur Soumaré l'a souligné, une des solutions proposées par le président de la République, c'est la dissolution de la Cour constitutionnelle. Et en ce moment, l'Assemblée nationale reste intacte. Alors, est-ce qu'on va vers une proposition, si la dissolution de la Cour constitutionnelle est faite, est-ce que le président de l'Assemblée nationale va proposer 3 membres de la Cour constitutionnelle ?
Alors, je reviens sur mes propos. Il n'y a pas de solution juridique possible aujourd'hui. Toutes les autres solutions seraient politiques. Et je souligne en ajoutant que la politique sans le droit, c'est comme un véhicule sans frein, sans volant. Et vous conviendrez avec moi que personne parmi vous ne voudrait entrer dans un tel véhicule sans frein, sans chauffeur, ou pardon, sans volant. Donc, les solutions politiques, il y en a toujours, mais les solutions politiques ne sont pas durables. C'est du copier-coller, c'est du bricolage. La solution juridique, je ne la trouve pas, et à mon avis, il n'y a pas de solution juridique possible aujourd'hui, parce que si on suit le droit, le président de l'Assemblée nationale a bel et bien le droit de nommer 3 membres de la Cour constitutionnelle. C'est son droit, et il doit le faire selon le droit.
Mais est-ce que c'est possible que le président de la République procède à la nomination ou que la nomination soit faite sans le choix du président de l'Assemblée nationale ?
Alors, la Constitution malienne prévoit les 2 cas. Donc, le président de la République nomme 3 et le président de l'Assemblée nomme 3 également. Sans parler du Conseil supérieur de la magistrature qui nomme également 3. Donc, chacun avec ses prérogatives. Et je ne vois pas de quel droit on pourrait empêcher le président de l'Assemblée nationale de nommer également 3.
D'accord. Brema Elidiko, s'il faut sortir aujourd'hui des solutions juridiques, serait-ce possible que les membres de la Cour constitutionnelle soient nommés sans le choix du président de l'Assemblée nationale aujourd'hui?
En fait, si on doit rester légaliste, non. Mais effectivement, si on a des solutions politiques, on peut dire qu'ils vont être nommés. Mais le problème, c'est qu'ils sont nommés pour quand même une longue durée, je pense 7 ans. Là, ça va être difficile. Par contre, ce qui me semble possible, c'est qu'effectivement, on reste sur cette question-là précise sur le droit, c'est-à-dire que le président de l'Assemblée nomme 3, les magistrats nomment 3 et le président syndicat nomme 3, ce qui fait 9. Alors, on peut supposer que les 3 que le président de l'Assemblée va nommer vont aller dans le sens d'une décision qui est favorable au président de l'Assemblée nationale, mais on a 6 autres, donc le quorum, c'est 5 seulement. Donc, si on a vraiment 3 personnes, on va dire impartiales, nommées par le président IDK, 3 personnes nommées par les magistrats, on a 6, donc on dépasse déjà le quorum. Donc, ces 6-là peuvent prendre une décision qui peut, en fait, contrecarrer la décision de 3 que le président de l'Assemblée va nommer. Donc, ce n'est pas ça le problème. En fait, au fond, on est, de toute façon, on va violer la loi. Ce que la CEDEAO propose, c'est des élections, c'est relire l'arrêt de la Cour, faire des élections partielles. Or, juridiquement, comme le disait le premier intervenant, c'est que ces élections partielles elles-mêmes sont anticonstitutionnelles parce qu'il faut soit une démission, soit un décès. Et donc là, cette solution, elle est anticonstitutionnelle. Ce qui est constitutionnel, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et ça, on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire, ils sont 147. On peut, s'il s'agit de rembourser ceux qu'ils ont investi, pour un État et pour la stabilité, ce n'est pas trop demandé. Donc si on veut rester dans le droit, on dissout l'Assemblée, puis bon, on s'arrête là. Ça a déjà été fait sur le fameux Canary, quand Ibeka lui-même était Premier ministre. Donc ce n'est pas un problème en soi. Par contre, si on veut rester dans un accord politique, c'est assez simple, hein. C'est qu'on revient au résultat provisoire du second tour, et dans ce cas-là, ceux qui estiment être cipolliés, s'il n'y aura pas de recompte, on ne peut pas faire d'élection partielle dans ce cas-là. Donc les 30, on les remercie, ils sont remplacés par les 30 qui s'estiment spoliés. Dans ce cas-là, ce serait un accord politique. Mais comme le premier intervenant l'a dit, il faut effectivement un accord politique. On sera dans un règlement politique d'une crise qui a beaucoup de dimensions, en fait. Comme ça, ça nous permet de voir une sorte de charte de stabilité qui sera signée par les différents acteurs et qui permettra en ce temps de la mise en œuvre des réformes qui sont requises pour nous sortir justement de cette situation à long terme.
Alors, le président de la République a parlé de la prise en compte des recommandations de la CEDEAO et une de ces recommandations est de reconsidérer les résultats de toutes les circonscriptions circonscriptions ayant fait l'objet de révision par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. De nouvelles élections partielles pour les circonscriptions concernées devraient donc être organisées dans les meilleurs délais. Alors, dans le contexte où le président de l'Assemblée nationale nomme 3 membres de la Cour constitutionnelle et que les élections seraient réorganisées, peut-on s'attendre à la neutralité de ces membres de la Cour constitutionnelle, Brema Ilidiko?
Oui, non, mais pour moi, en fait, les gens qu'on nomme sont des gens qui ont une qualification. Un être humain peut être nommé par un individu, mais tu restes impartial. Tu n'es pas obligé de prendre une décision qui va dans le sens de président, en fait, de l'Assemblée nationale. Donc pour moi, ça dépend simplement de la qualité des hommes. On peut se dire que bon, si c'est le président de l'Assemblée qui les propose, ils vont prendre une décision qui lui soit favorable. Mais en réalité, peut-être que si on doit reconsidérer les élections, il ne sera même pas candidat. Donc, il y a aussi cette hypothèse. Pour moi, il y a 9. Si les 6 ne sont pas nommés par le président de l'Assemblée nationale, les 6 sont majoritaires et donc c'est leur décision qui compte et non la décision des 3 qui va nommer.
Alors, dans ce même contexte, on voit que les banques, l'APBF a annoncé la fermeture de toutes les banques sur toute l'étendue du territoire national ce lundi. Également, beaucoup d'activités sont paralysées. Professeur Mamoutou Soumaré, quel est l'impact économique de ces manifestations-là sur la vie de la population?
Bon, pour le moment, quelques jours, l'impact est marginal. Mais justement, à partir du moment où on commence à fermer les banques, ou même le M5 demande d'occuper, par exemple, les stations-service, là, on va vers un blocage de l'activité économique. Et normalement, la désobéissance civile ne veut pas dire empêcher l'activité générale du pays. Cette notion également de désobéissance, il faut faire attention à ne pas bloquer l'activité économique d'un pays sous prétexte de revendications politiques. La désobéissance civique ne veut pas dire bloquer le pays. Il y a un autre élément également important. On est depuis un mois, on est dans un pays sans gouvernement. Et personne, on semble l'oublier. Depuis le 12 juin, le Premier ministre a été reconduit, mais aucun membre de son cabinet n'a été nommé. Parce que depuis un mois, il n'y a aucun décret qui ne peut être signé. Les arrêtés au niveau inférieur, au niveau des directions, etc., peuvent être faits, mais il n'y a aucun décret qui ne peut être signé. Donc là, on est également dans un blocage, sachant l'importance économique, entre guillemets, de l'État malien. Ça va amener à des problèmes, parce qu'on est vraiment dans une situation de blocage au niveau institutionnel. Donc ça, il faudrait réellement qu'on nomme le gouvernement, qu'on fasse l'affectation des services, etc., pour qu'un certain nombre d'activités puissent reprendre. Ça également, c'est très important. Mais pour le moment, quelques jours de blocage n'ont un impact minime. Il ne faudrait pas que ça s'étende sur 2 ou 3 semaines. Sachant également qu'on vient de sortir d'une période de confinement, qui a vraiment marqué les couches populaires.
Impact minime même pour les populations, les familles qui vivent du jour au jour, qui vivent à travers les petits commerces. Est-ce que c'est minime pour ces familles également?
On n'est qu'à 3-4 jours de blocage pour le moment. En tout cas, par rapport à la période de confinement qui avait été décidée, l'impact pour le moment est minime. Il ne faudrait pas que ça s'étale sur 2 ou 3 semaines. Parce que non seulement il y a le problème de l'activité économique, il y a le problème de l'insécurité. L'un des intervenants parlait des jeunes qui sont sans contrôle. C'est ça le problème maintenant. On peut initier un mouvement, mais c'est toujours la population, la masse qui a le dernier mot. Et ils sont maintenant en roue libre. Il y a beaucoup de jeunes qui n'écoutent aucun mot d'ordre. Certains également ne sont pas là pour suivre les mots d'ordre. Donc il y a l'insécurité également qui peut se joindre. L'insécurité pour tous ceux qui vivent au jour le jour, comme vous dites, effectivement. Et le risque d'être attaqué, le risque d'être pillé, alors qu'ils n'ont rien demandé. Également, c'est un risque qui existe.
Diakari Poudjougo, quand le M5 annonce qu'aucune proposition, à travers Tayrouba qui vient de le dire, qu'aucune proposition du président de la République ne sera recevable pour le M5 parce que leur souhait aujourd'hui, c'est le départ du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et quand Brema Ilidiko également l'a soulevé tout de suite, certains des manifestants pourraient ne pas suivre le mot d'ordre des responsables du M5, même s'ils demandaient aujourd'hui l'arrêt de ces manifestations. Alors, qui peut trouver une solution à cette crise à laquelle le Mali fait face?
Merci. Je vous demande de me permettre de répondre rapidement aussi des propositions que j'ai entendues tout à l'heure.
Allez-y.
Et ensuite, je vous parlerai des solutions que j'ai à proposer. Mmh. Alors, il y a eu des propositions sur la Constitution ou le remembrement de la Cour constitutionnelle en atteignant uniquement le quorum. Je trouve cette solution très politique, politisée et même dangereuse. Et cela nous amènera à créer une Cour constitutionnelle corrompue. Et n'oublions pas ce qui nous a amené à la situation actuelle, c'est surtout la corruption, le mensonge. C'est le fait d'essayer de coller les vêtements nouveaux avec du vieux tissu. Ça ne tient pas. Soit on a une Cour constitutionnelle totalement remembrée, soit on n'a pas une Cour constitutionnelle ou une institution corrompue. À mon avis, cette proposition est politique et très dangereuse. Les solutions politiques, je le dis, non, ne sont pas
Par rapport à cette question. Par rapport à cette question, est-ce que cela veut dire que vous pensez que le président de l'Assemblée nationale qui est contesté aujourd'hui ne devrait pas choisir des membres de la Cour constitutionnelle?
Si nous suivons le droit, absolument, il a le droit de le faire parce que la Constitution l'autorise à le faire. Mais je suis en train de dire que les solutions juridiques, elles aussi, on les limite aujourd'hui. Il n'y a pas de solution juridique possible. Et je voudrais maintenant vous proposer la solution très rapidement.
Allez-y.
Et en répondant d'abord directement à votre question, oui, je pense que le M5 ne va pas s'arrêter et que les leaders du M5 ne peuvent plus contrôler le mouvement parce que le mouvement M5 est en réalité plus que ce qu'on a pensé. Et la solution pour moi aujourd'hui, ce n'est plus ce débat politico-juridique, c'est de revenir sur le droit, l'objectif final du droit, c'est la paix, c'est le développement. Et le droit nous permet de parler de la vérité. La vérité, c'est que tout le monde sait que le régime EDECA a échoué, que les revendications du M5, notamment la lutte contre la corruption, la malgouvernance, la lutte contre l'injustice sont aussi légitimes et partagées. Maintenant, quelles sont les solutions? Les solutions, ce n'est pas la destitution du président. Je ne parlerai pas de démission parce que ça n'a aucun sens juridique. Un président ne démissionne pas en réalité. On pourra parler de destitution. Je ne sais pas de dépendre des cas. Il n'y a rien à dépendre dans sa gouvernance qui a été nulle. La vérité, c'est que nous avons une situation explosive et il y a une inquiétude par rapport aussi au M5. Je le redis, les revendications du M5, notamment en ce qui concerne la malgouvernance, l'injustice, la corruption.
D'accord, Monsieur Poudjougo, on va vous redonner la parole tout à l'heure, le temps d'améliorer la qualité sonore du téléphone. Brema Eli Duko, êtes-vous d'accord avec Dr Jakari Poudjougo?
Bon, moi, vous savez, depuis le mois de juin, j'avais dit sur plusieurs antennes qu'il faudrait un accord politique de gouvernance. C'est ce qui nous permettrait de sortir de ça. J'ai été très surpris de la lenteur des décisions finalement qui ont été prises en retard. Il faut impérativement une solution politique. Mais à chaque fois, si on veut mettre le droit à dire ceci, le droit à interdire cela, on ne s'en sortira pas. Parce que le droit est là pour gérer en tout cas la vie en société. Il est très important, mais en contexte de crise, il faudrait des solutions politiques importantes, mais des décisions mais vraiment qu'on prend rapidement, sans toujours attendre qu'il y ait des missions de ceci, de cela, ou bien des condamnations ou des pressions de la part. Non, ce sont des
Monsieur Duko, est-ce que le problème se situe au niveau des accords, des textes, d'un gouvernement d'union nationale ou de l'appartenance des différents membres du gouvernement? Est-ce que la solution n'est pas les hommes mêmes?
Les hommes, ce sont les hommes qui font les choses, ce sont les hommes qui gouvernent. C'est clair que c'est une question d'hommes au Mali aujourd'hui, parce que si on voit même que Mamoud Diko est devenu le garant moral, c'est qu'il y a eu la faillite de la classe politique de façon générale. Il y a quelques leaders politiques qui ont encore l'estime des gens, c'est pas ça le problème, mais le fond, c'est que la classe politique ne mobilise pas véritablement. Pour mobiliser, il faut payer. Donc, à un moment donné, c'est la question des hommes. Mais en fait, la crise qu'on est en train de vivre, c'est une crise profonde. Comme je l'ai dit, c'est un rouleau compresseur qui est lancé, que même le leader de M5 ne maîtrise pas. Mais il faut arriver à gérer le cycle de la violence qu'on est en train de voir aujourd'hui. Parce que tout ça, là, les hommes, oui, parce que ces 30 dernières années, on a eu droit à une éducation de rabais. L'école est fermée depuis combien de temps et nos universités, nos écoles de fabriquent des chômeurs. Donc la formation des hommes est une question fondamentale. Et c'est tout ça qui explique que finalement on est dans des situations qu'on voit. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut impérativement une solution politique. Comme je l'ai dit, cela passe par la libération des détenus, mais cela passe aussi par la fin de l'usage des armes létales. Et c'est ensuite qu'on peut dialoguer. Et quand on va dialoguer, les hommes, tout le monde est coupable de certaine manière de la situation dans laquelle nous vivons. Chacun a des degrés divers. Mais il faudrait aujourd'hui qu'on arrête le cycle de la violence et qu'ensuite, même les hommes, même s'ils sont contestés, qu'ils puissent dialoguer. Et qu'on aille vers, très probablement vers la dissolution de la Cour constitutionnelle, vers la dissolution de l'Assemblée, c'est ce qui pourrait, je pense, contenter la plupart des manifestants. Parce que ce que la CEDAW propose, d'abord, c'est anticonstitutionnel. Et de deux, ça ne va pas du tout suffire. Hein. Et si on doit prendre des décisions, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain.
D'accord. Professeur Soumaré, quand le président de la République annonce un gouvernement d'ouverture, faut-il s'attendre à un partage de gâteau?
En tout cas, c'est ce qui va être perçu par la population. Et n'oublions pas que parmi les membres du M5, hein, y a certains qui ont été des ministres pendant plusieurs années, que ce soit Maître Muntagatal, qui a été ministre de 2013 à 2017, que ce soit Choguel Maïga, qui a été ministre pendant un an et demi, que ce soit Maître Batchili, qui a été ministre également. Donc, il faut voir également qu'au niveau du M5, si ce n'est Mahmoud Diko, qui n'a jamais été membre du gouvernement, la population a quand même, même si elle est d'accord pour ce mouvement, elle est quand même un peu réticente à toujours voir ces gens qui, à un moment, sont dans le gouvernement et après deviennent les opposants du gouvernement, en justifiant que oui, ils sont rentrés dans le gouvernement pour lutter de l'intérieur. Et quand on dit un gouvernement d'union nationale, c'est ce que la population va comprendre. C'est-à-dire qu'on va partager le gâteau. Un des intervenants disait tout à l'heure, les hommes. Il faudrait qu'on ait des hommes qui soient là pour le bien du pays, et non pas pour avoir un portefeuille, avoir un Marocain ministériel et pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages. C'est ça qu'il faudrait que ce... Et le meilleur moyen, ce serait vraiment de nommer des personnes indépendamment de leur appartenance politique. Quand le président dit qu'on va faire un gouvernement d'union nationale, c'est un partage entre partis. Ce n'est que ça.
Alors, au cas où ce serait un partage de gâteau, quelles seraient les conséquences?
Les conséquences, c'est que le mouvement ne va jamais s'arrêter. La population, bon, sauf si, bien sûr, les leaders religieux incitent justement les gens à rentrer rentrer chez eux, sinon ça va être très mal perçu. Parce que c'est ça qui a amené les différents problèmes. C'est-à-dire cette notion permanente où il faut faire le dialogue, où il n'y a quasiment pas d'opposition. Regardez même au niveau des élections, quand on voit que le parti d'opposition s'est rassemblé avec le parti majoritaire dans certaines localités pour les élections législatives, les gens ne comprennent plus rien. Est-ce qu'on est en démocratie ou bien est-ce qu'on est à la recherche d'un poste? C'est ces éléments-là qui sont importants. Et le citoyen lambda n'arrive plus à comprendre. Et c'est pour ça que, comme disait l'un des intervenants, premièrement, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale qu'il faudrait, c'est un gouvernement consensuel où on dialogue, même si on va en contradiction avec certaines règles juridiques, comme il le disait également, on ne peut pas poursuivre dans une situation comme se trouve le Mali aujourd'hui, on ne peut pas se baser uniquement sur les textes. Les textes ont été violés à diverses reprises. Même le président, l'autre jour, il a admis qu'il a violé les textes. Quand il a dit qu'il a demandé l'ordre d'exécuter l'article 39. Dans quelle démocratie vous avez vu qu'un président se permet de dire qu'il donne l'ordre d'exécuter un article de la loi votée par le Parlement? Et ça veut dire qu'encore plus grave, s'il a donné aujourd'hui l'ordre d'exécuter l'article 39, ça voudrait dire qu'à un moment, il a donné l'ordre d'interdire l'exécution de cet article 39. Et là, c'est encore plus grave. Le président aurait donné l'ordre de ne pas exécuter un article d'une loi. Vous imaginez les conséquences si on parle de juridisme? Ça, c'est très grave. Et donc, on devrait maintenant comme disait M. Dico, je crois, ou Koudoubou, on doit maintenant se réunir, tout le monde doit se réunir, oublier l'extrémisme, parce que le M5 tend vers un certain extrémisme, l'extrémisme également du point de vue du gouvernement, de monsieur Ibeka, tout le monde doit se réunir, appeler des personnes ressources pour le bien du pays.
Mais est-ce qu'une réunion est possible dans ce contexte de tension?
Dans tout contexte de tension, il est toujours possible de se réunir. Les hommes de bonne volonté peuvent toujours se réunir. Il faut avoir une bonne volonté. Et malheureusement, on voit que quand on constate que le président a traîné pour finalement exécuter l'une des revendications qui avait été proposée au bout de combien de temps? Au bout d'un mois et quelques.
Est-ce que vous remettez en cause la bonne volonté du président et des membres du M5?
Bon, ils vont vers un certain extrémisme. Le président, lui, il laisse rien. La personne qui a une seule parole, il ne veut rien laisser, il ne veut rien céder. Le M5 également dit que non, eux, ils ne veulent rien accepter. Il faut qu'ils partent.
D'accord.
Donc, il faudrait qu'on trouve un terrain d'entente. Jusqu'à présent, il est le président élu, il est le président reconnu par la communauté internationale. Il ne faudrait pas que non plus qu'on se trouve confronté à un certain nombre de problèmes.
On donne la parole à Dr Diakari Poudjougou. Dr Diakari Poudjougou, quand on parle de gouvernement d'ouverture, en français facile pour le citoyen lambda, de quoi s'agit-il?
Alors, pour le citoyen lambda, il s'agit d'un gouvernement politique avec une sorte de compromis. Et je suis toujours contre le compromis, donc vous me permettez de finir rapidement ma proposition de solution.
Allez-y, la qualité sonore est meilleure maintenant.
Je pense que la politique peut être dangereuse. C'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas parler de solution politique. Je l'ai reconnu moi-même, elle n'existe plus, une solution juridique. Mais l'État... Si on veut réellement avoir un État apaisé, il faut respecter le droit. Donc le droit revient toujours. La solution, c'est le droit. Si les États-Unis d'Amérique sont encore stables, c'est parce qu'ils ont une constitution stable.
Mais et chez nous, excusez, Dr Poudjougou, quand vous dites qu'on ne peut plus parler de solution juridique et que les solutions, c'est le droit, est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu?
C'est ce que je veux maintenant expliquer. Je pense qu'il nous faut une refondation totale de l'État. Une refondation totale de notre État avec les valeurs républicaines. Parce que jusque-là, tout ce qui nous a conduit dans cette situation, c'est le non-respect du droit, la corruption. Aucun de nos textes n'a été respecté. C'est la violation du droit à tous les niveaux. Je vous donne un exemple.
En attendant, vous êtes en train de parler des solutions à long terme, les solutions durables. Mais à ce stade, pour calmer les tensions, qu'est-ce qu'il faut?
Les tensions ne peuvent pas être calmées à ce stade parce qu'il y a déjà des gens qui sont révoltés. La corruption crée de l'injustice. L'injustice révolte la population et aucun pouvoir ne peut faire face à un peuple révolté. Donc je continue rapidement avec la solution, si vous me permettez.
Allez-y.
Si vous prenez le cas, par exemple, de la crise au centre aujourd'hui, notamment au pays Dogon, tout le monde a vu, par exemple, ces gens qui veulent instaurer une république islamique avec la Katiba du Massina. Mais nos religieux n'ont pas parlé, ils ne sont pas sortis. Tombouctou et Gao, occupés, administrés pendant des mois, ils ne sont jamais sortis. Donc ça, c'est aussi un message à l'endroit du M5. Oui, la lutte contre la corruption, la malgouvernance, l'injustice, nous sommes avec eux. C'est pour le Mali, mais attention, c'est que ce qu'on voit parmi certains leaders du M5, lorsque la nation est en danger, par exemple le grand complot contre la République, l'instauration d'une République islamique, ça ils ne le dénoncent pas. Et pourtant, l'article 39 s'est réglé, ok, les écoles sont ouvertes à Bamako, mais et au centre? Combien d'écoles sont fermées, même à 120 km de Bamako? Et ça, on n'en parle pas. Il y a un complot contre la République, il faut le dire. Le président lui-même l'a reconnu, le projet d'instaurer un califat au Mali. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il le dénonce?
Excusez, je donne la parole à Brema Elidiko pour qu'il réponde, réagisse.
S'il vous plaît, vous lui avez donné la parole, s'il vous plaît.
Tout de suite, c'est juste pour qu'il puisse réagir.
Je finis ma phrase.
Excusez.
Si nous ne disons pas la vérité, nous ne pourrons jamais construire la République. Revenons à notre constitution, une République laïque, plurielle, avec tous les enfants du Mali, pour le progrès. Je vous remercie.
Un complot par rapport à l'instauration d'une République islamique au Mali. Docteur Brema Elidiko, est-ce que vous partagez cet avis de Docteur Poudjougou?
Franchement, je ne le partage pas du tout parce que ce qui se passe au centre du Mali et dans les régions du Nord et dans le Sahel occidental, c'est vrai que si le Haut Conseil ou autres ne l'ont pas suffisamment condamné, bon, ça c'est à eux de répondre à cela. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les revendications du M5, pour le moment, nous avons tous lu le mémorandum, nous avons tous écouté les différents acteurs. Aucun d'entre eux n'a fait mention de l'instauration d'une sorte de califat au Mali, d'une république islamique. Je vous assure que cela ne les arrange pas du tout, parce que si on doit le faire, on va couper les mains et les pieds de beaucoup de personnes. Ça, au Mali, c'est l'islam malikite qui est l'islam dominant et qui est un islam beaucoup plus syncrétique et tolérant. Donc ça, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple du discours de Kaoudjim le 19, il a bien précisé que la question de la laïcité du Mali du tout n'est pas remise en question. Donc les gens l'ont dit, Clément Damelé, dans son intervention du 5, aussi a mentionné cette question. Maintenant, ce qui fait peur aux gens, c'est que Diko, qui s'est dit imam, soit le garant moral de ce mouvement. Donc il dit oui, Diko, il connaît Yad Agali, donc qui est le responsable du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui avait en son temps réussi à faire libérer des militaires maliens, et donc que si le mouvement M5 aboutissait, c'était la mise en place d'un état laïque. Mais en fait, les gens se trompent. Il faut se dire, les terroristes, ils sont dans la cité de Banamba. Banamba et Bamako, c'est goudronné, c'est à 135 km. Les terroristes, ils sont à Djema, ils sont à Guiré, ils sont aujourd'hui à Yamfolida, donc dans le sud du Mali. Ils ont frappé Missemi, Fakola, Kolandjeba, ils ont frappé Bamako à trois reprises. Et ça, ce n'était pas avec le soutien du M5. Donc, il ne faudrait pas, je pense, se tromper d'ennemi. Eux-mêmes, ils l'ont dit. La mauvaise gouvernance est une réalité au Mali. Ce qui se passe, c'est que si on ne résout pas rapidement la crise à Bamako et qu'on pense que le Mali se limite à Bamako, les terroristes ils nous observent. On va oublier de mettre les renseignements généraux sur le centre et le reste là. Et c'est là où ils vont frapper. Yad Agali et Koufa, et ce sont des Maliens comme d'autres avec lesquels il faut dialoguer. Moi, je le dis là, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le dire, quand on prend la composition sociologique de leur groupe, ce sont beaucoup, il y a certes des gens qui sont idéologiquement marqués, il y a des fanatiques religieux, certes, il y a des djihadistes, d'accord, mais vous trouverez beaucoup dans ces personnes, dans ces groupes, des gens qui sont frustrés parce qu'ils ont été spoliés de leur champ, ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à faire la transhumance comme ils veulent, ils sont frustrés parce qu'ils ont un ressentiment vis-à-vis des représentants de l'État qui se sont adonnés à des raquettes, à des spoliations dans le centre du Mali notamment. Donc il faut comprendre la sociologie des groupes et connaître en fait les logiques qui sous-tendent l'engagement des jeunes dans ces groupes.
Et on donne
la.
À professeur Soumaré, Mamoutou Soumaré, aujourd'hui, vous êtes tous les trois d'accord qu'il faut un dialogue pour trouver une solution à cette situation. Mais qui pourrait mener ce dialogue-là entre les différentes parties?
Bon, pour le moment, on a fait appel à la CEDEAO, donc on pourrait prendre la CEDEAO comme exemple. Bien sûr, faites attention à la CEDEAO. Elle propose, comme disait l'un des intervenants, elle propose un certain nombre de règles qui sont en contradiction avec les règles constitutionnelles et les règles juridiques du pays.
Comme
mais néanmoins, il faudrait, par exemple, quand elle demande de refaire une élection partielle, hein, Monsieur Bandougou, je crois, en parlait, ça n'existe pas dans la Constitution de refaire une élection partielle, sauf cas de démission ou de mort, donc du député. Donc il y a un certain nombre de
mais ne serait-ce pas des solutions politiques dans ce cas?
Oui, il faut forcément une solution politique. Le président a entre deux mots, il a choisi de dissoudre de fait la Cour constitutionnelle. Peut-être il a eu peur des financements pour de nouvelles élections, comme disait l'un des intervenants, les gens qui ont dépensé des millions pour se faire élire, etc. Il a eu peur peut-être des 30 milliards, je crois que les élections ont coûté 30 milliards, d'ajouter 30 milliards aux 740 milliards de déficit du budget national de 2020. Donc, il a décidé de dissoudre de fait la Cour constitutionnelle. Mais les gens avaient demandé la dissolution, qui était une de ses prérogatives, de l'Assemblée nationale. Il n'a pas voulu le faire. Donc il essaye de louvoyer, d'essayer de maintenir cette Assemblée, essayer de mettre en place quelque chose qui portera forcément à redite, hein, parce que jusqu'à présent, les 30 qui n'ont pas été élus, on ne sait pas, au final, si on reprenait les décomptes exactement, est-ce qu'ils ont été élus au deuxième tour ? Il y a tout un tas de problèmes que ça va amener, à même si on faisait des élections partielles, ça, est-ce que ces 30-là sont forcément élus ? Ils étaient au premier tour, c'est vrai. Ils étaient au niveau de, avant les recours. Mais eux-mêmes ont déposé des recours. Donc, il faut faire attention à ça.
D'accord.
Premier élément. Deuxième élément, on peut soit la CEDEAO, soit l'UMOA, soit il faut trouver une structure.
Donc, c'est la communauté internationale, selon vous, qui pourra mener ce dialogue entre les différents partis.
Parce qu'au niveau du Mali, je ne vois personne.
D'accord. Est-ce que Dr Diakari Poudjougou, Dr Diakari Poudjougou, est-ce que vous voyez une autre personne au-delà de la communauté internationale ou une autre partie pour mener ce dialogue?
Alors, je pense que la communauté internationale, entre guillemets, est mieux placée pour un dialogue. Mais si nous voulons réellement sortir de cette crise, comme je l'ai déjà dit, il nous faut aller vers une refondation totale de l'État, parce que la CEDEAO ne peut pas nous faire sortir de cette crise. On l'a vu en 2012. Et aujourd'hui, la situation est pire qu'en 2012. Et donc, je pense qu'il faut vraiment une refondation totale. Nous ne pouvons pas compter, vous avez entendu, j'ai dit communauté internationale, entre guillemets, parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas compter sur la communauté internationale pour notre survie, pour exister qu'en tant qu'État. Nous devons accepter nos valeurs entre nous.
Sur qui, dire, sur qui pouvons-nous compter?
Sur nous-mêmes. Quand je parle de refondation de l'État, je veux qu'on refonde totalement. Il nous faut une nouvelle République. Parce qu'il y a un complot, je le répète encore, je l'ai dit, je partage mes revendications, certaines revendications du M5. J'ai simplement souligné une inquiétude par rapport au leadership dans le M5. Donc, il ne faudrait pas qu'on déforme mes propos. Je n'ai pas parlé de terrorisme face au M5. Et ces revendications du M5, je l'ai aussi faites bien avant le mouvement M5. Donc, je le dis, il faut refonder notre État. Parce que nous sommes aujourd'hui au cœur d'un complot. Et je vous l'ai dit, le président lui-même l'a reconnu. Le projet des califats au Mali. Qui dit qu'il n'est pas au courant de cela? Est-ce que je suis en train d'inventer lorsqu'on administre des régions comme Tombouctou et Gao?
D'accord, solution, il nous reste 4 minutes. Solution dans l'urgence. Vous dites que ce sont les Maliens qui doivent mener ce dialogue.
Les Maliens doivent mener ce dialogue et à partir du M5. Le M5 doit encore s'ouvrir pour ouvrir la liste avec des valeurs républicaines. Nous voulons aller ensemble dans un Mali pluriel avec tous ses enfants, avec nos valeurs, avec nos richesses ethniques, culturelles, ensemble pour un Mali prospère. Il faut une nouvelle constitution dans le respect strict de ces valeurs de la République et de la laïcité, sans quoi nous allons revenir dans une crise encore plus grave que ce que nous avons.
Docteur Brema Ilidiko, qui pourrait mener ce dialogue? Il y a M. Soumaré qui propose la CEDEAO ou un membre de la communauté internationale, et Docteur Poudjougou qui estime que ça devrait être mené par les Maliens.
Bon, en réalité, effectivement, moi, j'aurais voulu que le dialogue soit franc entre Maliens, maintenant sous l'égide de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'il faut un médiateur qui fasse le suivi des révolutions qu'on va prendre. Parce qu'au Mali, on a fait beaucoup de dialogues entre nous-mêmes, mais à chaque fois, il n'y a pas de suivi, et donc après, on rébellote. Donc, il faut effectivement un dialogue franc entre Maliens, mais en présence, une fois qu'on se met d'accord sur quelque chose, que la CEDEAO soit prise comme témoin de ce qui va se faire et qu'elle fasse le suivi des décisions en fait, qu'on va prendre. Et il faut le faire, pour moi, impérativement, au plus tard, jeudi. Parce que, en fait, le temps joue contre le Mali.
Dans ce contexte, est-ce que le dialogue national inclusif a réellement servi à quelque chose quand on voit cette crise sociopolitique?
Si, il a servi à quelque chose. Malheureusement, ils n'ont pas mis en place le comité de suivi. Donc, comme ils n'ont pas mis en place ça, on en est là aujourd'hui. Donc, si on fait un autre accord, s'il n'y a pas de suivi, on en sera encore là dans quelques mois.
Paix et réconciliation dans le pays. Que Dieu fasse que la situation se calme, que les tensions se calment, qu'on trouve une solution à cette crise sociopolitique à laquelle le Mali fait face. Merci à nos invités qui étaient tous au téléphone, je le rappelle, compte tenu du contexte auquel nous sommes, dans lequel nous sommes plutôt. Docteur Brema Ilidiko, sociologue, professeur à l'Université de Bamako, Diakari Poudjougou, docteur en sciences juridiques et politiques, professeur à l'Université de Bamako, et professeur Mamoutou Soumaré, économiste chercheur. À la régie audio, Mamadou Ouattara et Mamadi Keïta, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.